quelquefois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Konnichiwa, Sho Panorama, no kono atarashi, episodo e yokoso. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce petit prompteur exotique vous aura sans doute mis la puce à l'oreille si vous étiez passé entre les gouttes des bandes annonces de fin de semaine. Pour ce sixième épisode de Panoramique, nous allons nous aventurer du côté du Japon, terre promise d'un format audiovisuel culte avec un destin complètement fou, c'est l'anime. Vous avez sûrement déjà entendu ou vu ce terme, même si vous n'êtes pas follement fan ou spécialiste des animes, on dit aussi animé et on le trouve aussi sous la forme plus sophistiquée et plus rare de Japanimation. Un anime, c'est quoi? Eh bien, c'est l'abréviation de animation, un mot anglais que les Japonais utilisaient à la base pour désigner ces films et séries d'animation souvent adaptées de manga. Il en existe depuis plus d'un siècle. On a retrouvé en effet le tout premier qui s'appelle Namakura Gadana, un peu par hasard dans une boutique d'antiquité à Osaka en 2008. Et les bandes, eh bien, dataient de 1917. Donc c'est vraiment une vidéo, un petit trésor à aller découvrir. Il est disponible sur YouTube d'ailleurs. C'est un petit peu l'école qui nous a dicté nos codes, comme dirait l'autre. Et en un siècle, eh bien, l'anime a connu plusieurs évolutions assez marquantes, et notamment un essor commercial vraiment fracassant dans le monde entier, notamment à partir des années 80, quand les chaînes occidentales ont pu acheter un peu plus librement, voilà, les droits de diffusion de certaines séries à succès qui étaient beaucoup moins chères que de les faire produire, sur place. Et jusque chez nous, en France, on pense bien sûr au Club Dorothée, qui, mine de rien, a permis à toute une génération, peut-être que vous en faites partie d'ailleurs, de découvrir Goldorak, Sailor Moon ou encore les Chevaliers du Zodiac. On en parlera tout à l'heure, mais ça n'a pas toujours été chose facile chez nous. Et puis on pense aussi bien sûr au succès énorme du studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 85. Des films évidemment qu'on connaît tous, au moins de nom, comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro ou encore plus récemment Arrietty. Voilà pour en citer à peu près un par décennie parmi les plus connus. Et en fait, tous ces contenus, tous ces grands noms qui ont accompagné cet essor fracassant de l'anime dans le monde entier ont été portés bien sûr par un sens particulier de l'image, avec un trait des couleurs, des ambiances qui sont extrêmement reconnaissables, mais aussi par un sens particulier du son et de la musique. Et puisqu'on parle dans beaucoup de cas d'une adaptation qui passe du livre à l'écran, eh bien il a fallu à chaque fois imaginer un univers sonore suffisamment fort, suffisamment évocateur pour donner vraiment vie aux personnages et aux décors. Il y a aussi bien sûr le sujet annexe des doublages. En discutant de cet épisode avec quelques personnes, ça m'a d'ailleurs fait rire parce que on a tous un rapport différent au doublage français des séries japonaises. Voilà, ça peut parfois complètement rebuter ou alors totalement attendrir. Moi personnellement, j'adore en général le petit côté kitsch des versions françaises. Mais pour revenir à la musique, on va se pencher ce soir sur 3 ou 4 grands angles et grands exemples qui permettront de saisir vraiment l'essence de ces BO particulières. Que ce soit des génériques ou des thèmes de personnages principaux par exemple, voire même des disques d'or complètement incontournables qui aujourd'hui encore sont chantés dans tous les karaokés à travers le monde, on va partir à la rencontre de ces quelques phénomènes les plus notables des 4 dernières décennies en matière de musique d'anime, et puis on terminera avec une petite recommandation personnalisée de Thomas Changeur, qui est le gérant des Ballades Sonores, un temple incontournable pour amateurs de vinyle japonais. Voilà, c'est la fin de cet édito et c'est le début du voyage. On commence avec le thème de Princesse Mononoke, une version live trop belle, composée et dirigée par Joe Hisaishi. A tout de suite sur Radio Campus Paris, vous écoutez le 6e épisode de Panoramique.
Thank you.
Vous êtes de retour dans Panoramique sur Radio Campus Paris. Qu'est-ce que c'est beau! On vient d'écouter la version symphonique du thème de Princesse Mononoke, composée et dirigée par Jo Hisaishi, qui est le binôme historique de Miyazaki depuis leur première collaboration sur Nausicaa de la Vallée du Vent. Ça, c'était juste avant la création du studio Ghibli en 1984. On a déjà évoqué plusieurs binômes réalisation-composition dans Panoramique. Celui-ci en est un nouveau. Du fait, Hisaishi rencontre Miyazaki par l'entremise de l'autre cofondateur du studio qui s'appelle Takahata au moment où les recherches commencent pour le score de Nausicaa. Et en fait, tout de suite, l'entente entre les deux hommes fonctionne assez bien. Miyazaki est très content de l'apport d'Hisaishi et ensemble, ils vont commencer un parcours de plus de 10 longs métrages qui n'est d'ailleurs toujours pas fini puisqu'aujourd'hui, Miyazaki a 81 ans mais il travaille encore sur un projet de film qui verra une fois encore Hisaishi aux manettes des partitions. Et j'aimerais vous parler un peu plus en détail des particularités de ce compositeur que je trouve vraiment impressionnant et passionnant. Alors, Jo Hisaishi, c'est d'abord ce pseudo pris en hommage, on dirait pas comme ça, à Quincy Jones. En japonais, en fait, on prononce Quincy et le kanji Ku peut aussi se lire oralement comme Isa. Alors du coup, ça fait Hisaishi. Voilà, je trouvais ça assez mignon d'avoir choisi ce blaze. Mais son vrai nom, c'est Mamoru Fujisawa. Et c'est un petit génie de la musique qui va écrire ses premières œuvres alors qu'il est encore à l'école. Il a commencé à faire du violon à 4 ans et puis il a un parcours académique assez standard. Il va faire des grandes écoles de musique. Et puis, il va se servir à droite à gauche en écoutant énormément de jazz, de funk et de musique symphonique aussi, de musique contemporaine. En fait, il est pianiste, arrangeur et parolier, donc il va monter des groupes, il va écrire des partitions pour différents ensembles. Et à ce jour, il compte une trentaine d'albums solo à son actif, quasiment le même volume en bande originale. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement prolifique qui considère ouvertement que la musique doit être constamment en mouvement. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il tourne régulièrement en concert des versions en fait évoluées, augmenter des thèmes fétiches qu'il a proposés pour le grand écran, un peu comme un artiste de pop en fait pourrait le faire avec des nouvelles versions des tubes de sa jeunesse. Et en fait, Hisaishi, c'est un amateur de Philip Glass et de Schoenberg, de cette école en fait de compositeurs du XXe siècle, un peu poussez-vous, j'arrive, qui ont contribué à faire bouger les lignes concernant la pratique symphonique de la scène. Hisaishi, même s'il arrive dans ce métier avec un parcours académique, on l'a dit, qui est très complet, qui est très standard, en fait, il n'hésite pas à bousculer lui aussi les codes dès qu'il le peut. Par exemple, sur sa dernière tournée à la Philharmonie de Paris et dans toutes les autres grandes salles en Europe et aux États-Unis, il avait décidé en fait de rapprocher tous les instruments de l'orchestre, voilà, pour que les cordes puissent sentir aussi les vibrations des percussions, pour que le chef d'orchestre aussi ne soit pas à 10 km de ses musiciens, mais quasiment au milieu d'eux. Plein de petites choses comme ça qui vont faire que du coup, ben, les musiciens et le public et le chef d'orchestre, en l'occurrence lui, ressentent vraiment l'acte de concert différemment, quoi. Et à l'occasion de cette tournée, il avait été questionné un peu dans la presse sur ses choix justement de proposer des versions alternatives de ses BO les plus connus. Et c'est là qu'il avait expliqué combien ça lui importait, voilà, de toujours continuer à créer, même les choses qui semblaient avoir déjà été créées. Donc par exemple, dans le cas de la bande originale de Mononoke, qui est l'une des plus connues, il a toujours eu à cœur en fait de complètement réinventer le thème, de traverser en fait, de remanier tous les thèmes pour en faire des œuvres symphoniques à part entière. Et donc, Princesse Mononoke, si on revient un petit peu dessus, c'est un long métrage qui a rencontré un gros succès en salle et qui a reçu de nombreux prix. C'est vraiment le virage important du studio Ghibli avant le troisième millénaire. Studio qui avait tendance à manquer un peu de crédibilité dans les yeux de l'Occident. L'Occident, parce que c'est vrai que chez nous, le dessin animé était traditionnellement destiné aux enfants. C'était encore très rare, c'était pas encore mainstream, disons, que le dessin animé soit utilisé pour traiter des thématiques d'adultes. Je pense par exemple à l'écologie, à la guerre, à la mort ou même à l'amitié, avec une approche qui était beaucoup moins manichéenne que dans nos bien-aimés Disney, qu'on a tous poncé allègrement au tournant du millénaire en question. Et en fait, Miyazaki avait dans l'idée de réaliser à l'époque cette espèce de grande fable, un peu intemporelle, avec un décor composé d'une forêt magique. Il imaginait une réécriture un peu onirique en fait, de La Belle et la Bête. Et quand il voit, en fait, dans les années 90, que Disney, justement, sort sa propre adaptation de La Belle et la Bête, eh ben, il décide de faire machine arrière, plutôt machine avant, et de remanier son scénario et de le développer pour avoir un peu une évolution des aspects traditionnels japonais. Donc ça se passe, du coup, à l'époque médiévale. On y retrouve les grands thèmes des croyances traditionnelles un peu animistes, avec des esprits protecteurs, des dilemmes, tous les éléments, les animaux, les minéraux, etc., qui sont animés. Et en fait, pour mettre en musique cette grande œuvre remaniée, il va demander à Hisaishi un peu de lecture, au lieu de lui demander des références musicales. Donc il a des poèmes anciens, des contes, il lui file tout un tas de bouquins, en fait il était très curieux de voir les thèmes qui allaient sortir sans aucune référence musicale, uniquement sur la base voilà, des ambiances, des décors, des légendes. Et Hisaishi fait bien le boulot, puisqu'il fait le choix d'utiliser énormément d'instruments traditionnels japonais dans ce score, pour bien coller à l'époque qu'on pouvait voir à l'image dans le film. Et il va également décliner en fait tout un tas de motifs un peu guerriers, si on peut dire, avec ses grandes percussions, ses grands tomes un petit peu martiaux, ses motifs menaçants qui illustrent les scènes de baston et de danger. Voilà, c'est vraiment un film et une BO que je vous invite à redécouvrir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, notamment par le biais de ce concert symphonique dont on a écouté un extrait et qu'on peut retrouver en entier sur le site d'Arte. Voilà, donc sans transition, on va dire au revoir à Hisaishi avec une autre de ses œuvres cultes qui est cet extrait de The Wind Forest de mon voisin Totoro, avec une version hyper poétique au piano, qui reste quand même son premier instrument. Et puis après, on écoutera un tout petit extrait, juste pour vous puissiez un petit peu voir les passerelles entre les deux. Moi, ça me fait penser à une œuvre de Debussy. Et ce qui est rigolo, c'est que on a souvent l'impression que les compositeurs du XXe siècle, notamment au début du siècle, étaient fascinés par l'Orient et avaient une vision un petit peu tronquée, un petit peu fantasmée en fait de la musique orientale. Donc on a beaucoup de compositeurs comme Debussy, comme Ravel, qui ont des œuvres soi-disant imprégnées de l'âme orientale, mais qui n'avaient jamais mis les pieds évidemment au Japon. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'un siècle plus tard, quasiment, on a des compositeurs qui sont vraiment japonais et qui mettent en valeur leur vraie tradition de manière beaucoup plus efficace, mais en tout cas, c'est assez rigolo, je trouve, de voir la passerelle entre les deux, c'est-à-dire entre un Japon fantasmé et un Japon qui est réellement mis en scène par des compositeurs qui viennent vraiment de là-bas. Voilà, trêve de blabla, on écoute tout de suite The Wind Forest, un extrait de la bande originale de Mon voisin Totoro par Hisaishi.
Thank you.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et l'émission Panoramique. Nous venons d'écouter un extrait de la bande originale de film Mon voisin Totoro, composé par Joe Hisaishi. Et on va tenter une passerelle pas si audacieuse que ça, en enchaînant avec un morceau de Debussy écrit 100 ans plus tôt. Ça s'appelle Rêverie. Maintenant qu'on a bien rêvé à des forêts magiques et à des voisins poilus, on va remettre un pied sur la terre ferme, ou presque, avec un classique des classiques de la BO d'anime. Je parle du générique d'ouverture de la série Cowboy Bebop, sorti en 98 et interprété par un groupe fictif créé pour l'occasion qui s'appelle les Seatbelts, traduire les ceintures de sécurité. Et c'est un fait suffisamment rare pour être précisé, c'est une femme qui s'appelle Yoko Kanno, qui compose et qui dirige cet orchestre un peu fada, qui trace tout son début de carrière sur l'association du jazz exigeant et des jams endiablés. Un petit mot rapide sur cette Yoko Kanno. Elle aussi, elle commence le classique à l'âge de 4 ans. Enfin, vraiment, on se demande en fait à quel moment ces gens ont pris le temps de regarder les minicums en mangeant des BN sur le canapé, puisqu'ils semblent tous avoir exploité le meilleur d'eux-mêmes alors qu'ils n'étaient encore qu'à la maternelle. Mais enfin, bref, elle mène une carrière de folie, cette Yoko Kanno. Elle est principalement connue pour sa contribution au BO de films, du coup, à la télé aussi, au cinéma, un peu pour tous les formats. Mais elle a également sorti des albums assez marrants et très très cool de J-pop, ce genre typiquement japonais qui s'inspire s'inspire des standards de pop 60s comme les Beach Boys ou les Beatles. Enfin, cela étant dit, avec ce qu'on va écouter maintenant, vous allez plutôt être catapulté dans l'univers des tueurs à gages qui parcourent le monde à bord de leur vaisseau, le Bebop, et on se demande comment ils font pour réussir à piloter ce machin sans être pris de déhanchés irrésistibles comme nous dès qu'on entend ce thème, voyez plus tôt. Écoutez toujours Radio Campus Paris dans l'émission panoramique consacrée aux bandes originales d'animes japonais. Nous venons d'écouter l'opening incroyable de la série Cowboy Bebop et c'est vraiment une petite claque, c'est un bijou qui donne envie de faire des enquêtes. J'allais dire envie de tuer des gens comme les héros, mais je pense que si je fais cette blague, je vais me faire dégager de Radio Campus Paris. Et là, aucun vaisseau magique ne viendra me sauver pour m'accompagner à ma réinsertion médiatique, donc je vais éviter de faire cette blague. Toujours sans transition, ou presque, on continue notre petit tour des musiques cultes et je voudrais montrer un peu la diversité de ces fameux génériques, notamment avec l'exemple d'un morceau que j'aime énormément. C'est celui qui ouvre la série Saint Seiya, en français Les Chevaliers du Zodiaque, une série des années 80 qui mélangeait les codes de l'univers médiéval et des super-héros de comics. Autant dire que c'est un peu comme les tartines beurre Nutella, faut vraiment oser, mais quand ça marche, ça déchire tout. On écoute tout de suite ce générique composé par le groupe de métal japonais Make Up en 86 et qui porte le doux nom de Pegasus Fantasy. Attention, c'est très très bon. Shoot it down. waouh, ça décoiffe. Merci au groupe Make Up. Ils n'étaient pas dans l'émission, mais je les remercie à distance, par télépathie. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon dans Panoramique ce soir. On va finir bientôt en beauté avec trois dernières pépites. Premièrement, j'aimerais vous parler de Nakeo Takeuchi, qui en 92 a créé ce qui deviendra un quasi-monde parallèle, tellement ça a rencontré un succès fou. C'est l'univers de son héroïne, bien sûr, Sailor Moon. Une jeune fille dotée de pouvoirs magiques qu'elle va cacher, évidemment, en menant une vie tout à fait banale le reste du temps. Et en fait, après elle, après Sailor Moon, vont se multiplier les représentantes de ce genre, le genre de la Magical Girl. En fait, c'est un sous-genre de la fantasy qui met en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques, du coup. Et on peut aisément comprendre eh bien, pourquoi, à ce moment-là, en fait, donc début 90, pourquoi l'export et la renommée des animes japonais avec des personnages aussi mignons et aussi un peu sexy, hein, il faut bien le dire, va être eh bien, beaucoup plus simple que 10 ans auparavant, alors que toutes les productions occidentales se rabattaient en fait sans grande conviction sur l'import de séries japonaises pour avoir des contenus un peu moins chers à diffuser, notamment pendant l'été. En fait, le groupe AB avec le Club Dorothée, eh bien, ils sont arrivés après une expérience commerciale qui était un peu hasardeuse. C'était Antenne 2 qui avait vaguement essayé en 78 de diffuser les premiers animes japonais à la télé française, en choisissant comme ça un peu du bout des ongles le créneau des vacances d'été, qui paraissait peu risqué. Et de toute façon, voilà, qui allait faire, quoi qu'il arrive, peu d'audience, donc c'était une bonne manière de faire un peu se cracher le projet. Sauf que finalement, cet été-là, eh bien, la légende raconte qu'il a fait tellement moche et qu'il a plu tellement qu'en fait, en résultat, les gamins ont commencé à bloquer devant la télé sur les animes. Les parents étaient un peu moins contents. Et en fait, à l'époque, les choses qui se vendaient facilement à l'étranger, qui partaient du Japon, c'était surtout des histoires de robots guerriers. En fait, le Japon, évidemment, a une expérience en fait, de la guerre et notamment des bombes qui est un peu plus récente et un peu plus violente, enfin qui est différemment violente, on va dire, que celle de la France au même moment. Ce qui va créer, en fait, dans ce pays d'origine des animes, un rapport un petit peu décalé par rapport à la violence qui est représentée à l'écran. Et en fait, ce qui va être considéré au Japon comme des séries, des contenus fantastiques et futuristes, ça va pas toujours être très bien reçu en France. En fait, les parents et les producteurs, principalement pour cette raison, eh bien, vont commencer à monter au créneau. Et même, voilà, même pour passer du Goldorak chez Dorothée, il faut bien se rendre compte que déjà, à l'époque, c'était un petit peu un acte de rébellion. Du coup, dans les années 90, l'avantage, c'est que la polémique qui a précédé a au moins eu le mérite d'attirer l'attention des masses sur ce genre de l'anime. Donc on prend des habitudes, on commence à voir des films en salle, les jeunes sont de plus en plus fascinés par les univers voilà, colorés, psychédéliques, oniriques et décalés parfois du manga, qui va se dévorer évidemment en livres, en films, en séries. Et puis comme on est bien avant Netflix, cette passion s'accompagne aussi d'une difficulté bien souvent à trouver les contenus parce que bah, ce qui passe pas à la télé, où est-ce qu'on peut le trouver donc à trouver les contenus sans devoir forcément les pirater. Donc on a pendant 20 ans une contre-culture de l'anime qui grossit, qui va se passer un petit peu sous le manteau bien souvent et qui fait de plus en plus d'adeptes, probablement un peu alimentée par le caractère un peu exotique et dur à trouver de la chose. Donc une génération qui aujourd'hui est pile dans le cœur de cible de la plateforme américaine, évidemment Netflix, c'est-à-dire les 20-35 ans, grosso modo, et qui du coup se réjouit du flair de la plateforme qui, depuis 4 ou 5 ans, collectionne les références d'anime de manière ultra finaude. Donc voilà, je ne vous en cite pas, mais je ne vous empêche pas non plus. Sachez juste que si vous avez déjà un abonnement Netflix, comme c'est le cas pour beaucoup de monde, vous pourrez retrouver la plupart des films et des séries qui ont été mentionnés ce soir dans le Panoramique, parce qu'il y a vraiment une collection assez intéressante de films, de séries, de tout un tas de choses, même de documentaires qui sont bien souvent pas fou, mais pas mal fait. Pour en savoir un petit peu plus, si vous débutez dans l'anime ou si vous souhaitez vous replonger un petit peu dans vos madeleines. Voilà, donc on va se quitter avec trois derniers morceaux. Premièrement, une version originale, je trouve, qui est un peu disco 70s du thème de Sailor Moon. Alors, qui dit empire de la pop culture, parce que forcément, il y a eu des séries, des films, des jeux vidéo. Donc forcément, il y a une multiplicité des compositeurs et des intervenants pendant toute la période où Sailor Moon a été créé, lancé jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est la version qui s'appelle Moon Tiara Action de Takenori Arisawa. Parce que je trouve qu'elle est plutôt charmante, cette version du générique. Et puis c'est un compositeur qui a le plus contribué à l'histoire de Sailor Moon en termes de volume. Voilà, il a vraiment, c'est celui qui a composé la plupart des thèmes un peu vintage des premières années. C'est celui qui a reçu aussi tous les prix de composition pour la musique à l'image. Donc voilà, je l'ai choisi lui pour cette raison. Et puis après, on écoutera deux recommandations de Thomas Changeur, deux des très très nombreux disques que vous pourrez retrouver en boutique aussi aux Balades Sonores dans sa boutique. C'est un disquaire, hein, que ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes et qui découvrent, c'est un disquaire génial qui se situe dans le 9e à Paris, avenue Trudaine, et qui est composé de deux boutiques avec des coins, des recoins, des re-re-recoins. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont l'un des trois plus gros rayons d'Europe en ce qui concerne la musique japonaise et notamment les bandes originales d'anime. Donc voilà, je vous laisse l'information monter au cerveau. Si vous avez de l'argent à dépenser miraculeusement en ce mois de décembre en pleine inflation pré-Noël, n'hésitez pas à aller explorer les rayons complètement fous des Balades Sonores à ce sujet. Donc Thomas nous recommande premièrement le thème du film Porco Rosso. C'est un film du studio Ghibli qui est sorti en 92 et qui raconte l'histoire d'un pilote d'hydravion à tête de cochon dans l'Italie des années 20. Voilà, je cherchais un moyen efficace de résumer ce pitch ayant vu le film il y a très longtemps, mais Wikipédia m'a fait ma soirée avec cette phrase, je crois. Et donc c'est un thème qu'on écoutera juste après et qui est signé par Joe Hisaishi, dont on parlait en début d'émission. C'est un thème que je trouve très très beau, qui est tout en piano, tout en délicatesse, un petit peu suave, un peu jazzy. Voilà, je pense que ça vous plaira bien pour enchaîner sur votre dimanche soir, hein, qui sait ce que vous avez prévu au programme. Et puis on écoutera enfin, pour terminer cette émission, le thème des Mystérieuses Cités d'Or. Et en fait, la particularité de cette série, c'est qu'il s'agit d'une série franco-nippo-luxembourgeoise. Donc on n'a pas que des Japonais, on a aussi des Luxembourgeois et des Français qui mettent les mains dans les partitions, enfin dans la réalisation en tout cas de la série. Et notamment les Français qui, en tout cas les mystérieux, le mystérieux groupe Apollo, c'est surtout un Français en fait, c'est Jacques Corona, qui est mort en 2001 et qui était en fait connu pour les génériques de Lucky Luke par exemple, ou d'Inspecteur Gadget, donc un grand monsieur... Un grand monsieur du studio, un grand arrangeur, un grand monsieur de la musique à l'image, qui signe ici, pour les Cités d'Or, un score très chouette pour illustrer les aventures historiques et héroïques des personnages dans les fameuses régions précolombiennes dont il est question ici, les fameuses Cités d'Or au XVIe siècle. Donc voilà, on écoute ces trois derniers morceaux assez différents pour clôturer cet épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse profiter, vous laisser porter, et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, écoutez bien les films, regardez bien la musique, et puis essayez de tuer personne, hein, comme ça on aura toujours gagné ça. C'est une blague un petit peu plus tôt dans l'émission pour ceux qui n'ont pas suivi. Allez, ciao à tous et bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Intéressante à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
Panoramique.
Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or?
Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin.
pour la nuit avec tes deux meilleurs amis à bord du grand condor. Tu recherches les cités d'or.
Intéressante à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
Panoramique. Thank you.
des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique. Panoramique. Panoramique.